africaine, quant à elle, a suspendu le Soudan de ses institutions. L'ONU, à travers son secrétaire général, Antonio Guterres, a réclamé la libération de tous les membres du gouvernement et déploré la multiplication des coups d'État cette année dans le monde.
Voilà, merci beaucoup Dili. Et à présent, nos invités pour le débat dans notre studio de Paris, Mohamed Nadji, rédacteur en chef de Soudan Tribune, est toujours dans la capitale française, mais via Skype, Roland Marchal, chercheur spécialiste du Soudan et des conflits en Afrique. Et à Washington, Suleiman Baldo, conseiller principal à Sentry, il est expert en résolution de conflits, spécialiste du Soudan. Je reste avec vous, Suleiman. Le chef de l'armée, le général Burhan, a justifié son action par le fait que certains dans le gouvernement attaquaient l'armée, qui selon lui est une composante essentielle de la transition. Alors, l'armée a-t-elle des choses à se reprocher?
Il a à se reprocher le massacre du 3 juin 2019. À ce moment-là, des manifestants civils contre le régime dictatorial de Omar al-Bashir ont été massacrés devant le quartier général de l'armée, qui à l'époque elle était encore sous le commandement de Burhan. Et donc Burhan a peur d'être rendu, responsable de ce massacre, et c'est pourquoi il n'est pas tout à fait intéressé à avoir une autorité réellement civile, au contrôle du pays. C'est l'une des situations certaines.
D'accord. Alors, Roland Marchal, le mois dernier, le général Burhan avait affirmé avoir déjoué une tentative de coup d'État orchestrée par des militaires et des civils liés à l'ancien régime. Alors, faut-il voir un lien entre les événements du 21 septembre et le coup de force du 24 octobre?
Disons, je crois qu'il y a des liens. Il y a des liens qui sont peut-être pas les plus importants, mais il y a des liens, évidemment. Surtout parce que la tentative de coup d'État qui échoue relance avec une vigueur multipliée les critiques contre les militaires et, crée aussi un climat dans lequel de nombreux secteurs politiques, de l'arène politique soudanaise, demandent une épuration de l'armée qui n'a jamais eu lieu, puisque à l'inverse de l'appareil d'État. Donc il y a effectivement un durcissement et une polarisation du climat, et même si c'est pas aujourd'hui que cette histoire doit être écrite, on pourra peut-être un jour, en revisitant cette période-là, se dire que les responsables politiques civils ont un peu joué avec le feu, en sachant que nous approchions d'une période où il allait avoir un transfert de pouvoir de Burhan, en tous les cas de la présidence du Conseil de souveraineté de Burhan vers les civils, qu'on était aussi dans une phase de recomposition de la principale composante politique civile. Donc c'était pas le moment d'ajouter des problèmes aux problèmes, et c'est un peu ça quand même qui s'est passé.
Alors Mohamed Nadji, l'armée était, disons, aux premières loges durant les 30 ans du règne de Bachir. Cette armée a-t-elle du mal à lâcher le morceau?
Oui, c'est vrai, comme ça a été dit par Beldou et par Marshall, c'est que l'armée, effectivement, elle devait déjà, au passé, comme vous n'avez pas évoqué, rendre le pouvoir au civil, c'est-à-dire faire la rotation du pouvoir vers une présidence civile au mois de novembre. Et donc les militaires, ils voyaient qu'il y a ces deux questions de justice, comme l'a dit Baldou, et la question des réformes sécuritaires de l'armée, parce que l'armée, indépendamment de la réforme, c'est-à-dire la réunification des milices et toute autre chose dans un seul corps, il y avait aussi cette histoire d'intérêt ou d'activité commerciale dans le pays qu'il devait aussi rendre civil. Et ça, c'est les dangers beaucoup, en fait, parce que ça allait les déposséder de beaucoup de choses. Donc, c'est vrai, c'est pendant ces 30 ans-là, l'armée, il avait beaucoup d'acquis et qu'il n'est pas disposé à les rendre civils. Il ne faut pas croire tout ce que Burhan raconte, ce sont juste des prétextes pour faire chapeauter
le processus.
Mais en réalité, voilà.
Alors, Suleyman, ce gouvernement qui vient d'être renversé était censé conduire le pays aux élections qui allaient déboucher sur les premières institutions élues après Omar el-Béchir. Maintenant, le général Burkhane annonce des élections pour juillet 2023. C'est pratiquement 2 ans. Ça vous paraît raisonnable?
Alors, Burhane voit présenter son coup d'État comme une mesure de correction de la transition à la démocratie. Le cadre constitutionnel pour cette transition requit un partenariat entre le militaire et le civil. Ce que le général Burhane avait fait est de, disons, de mener un coup d'État contre ce cadre constitutionnel et donc terminer l'accord d'entente sur ce partenariat en essayant de choisir ces civils qui seront un peu plus gentils avec les militaires en ne s'adressant pas à la question de justice ou bien de leur intérêt économique aussi, si bien présenté par Nagy. Et donc Burhane a tout à fait fini la transition telle qu'elle est entendue. Et maintenant, la population tout entière s'oppose à ce coup d'État.
Mais comment compte-t-il s'en sortir quand on voit un peu la réaction de la communauté internationale, à l'exception peut-être de la Russie, Suleyman?
Bien sûr, il y a un isolement international total. On l'a vu avec tous les pays et l'Union africaine, les Nations unies, refusant de reconnaître l'autorité de Burhane et de ce coup d'État. En même temps, tout le monde dans la communauté internationale reconnaît le Premier ministre Dr. Abdallah Hamdok comme le chef reconnu et légitime du gouvernement du Soudan. La population totale est en train de boycotter aussi le coup d'État. Donc, isolement interne, isolement international. Et je me pose la question si Burhane a bien calculé son coût. Parce que maintenant, il serait pratiquement très difficile de gérer le pays avec tout cet manque de légitimité, soit internationale ou domestique.
D'accord. Alors, Roland Marshall, avant d'aborder cette question de la réforme de l'armée, sur cette réaction de la communauté internationale, vous pensez que les militaires pourraient reculer ou ça peut être compliqué, non?
Disons que mon métier, c'est d'analyser le passé, c'est pas de faire des prévisions pour l'avenir, mais c'est vrai qu'on peut espérer que les militaires vont reculer. Je sais pas si c'est très réaliste, mais évidemment, il faut essayer d'explorer toutes les options qui évitent un bain de sang et qui évitent la simple restauration d'un régime militaire dans ce pays. Il est possible, il est effectivement, et c'est très surprenant, puisque le général Burhane n'a jamais été décrit pendant sa période de pouvoir comme un militaire impulsif, idéologue, dogmatique. Hein. C'est plutôt les descriptions qu'on avait de lui étaient plutôt de quelqu'un d'assez raisonnable, de travailleur qui écoutait et qui savait évoluer dans ses opinions. Et donc c'est vrai que là il y a un mauvais calcul fait sur la position internationale qui est très étrange, d'autant que leurs alliés civils, en tous les cas jusqu'à l'aube du coup d'État, c'est-à-dire les leaders de deux mouvements darfouriens, étaient eux-mêmes très en contact avec des représentants de la communauté internationale et occidentale et savait très bien que l'ampleur du soutien à Khartoum était fonction du fait que c'était une transition vers un régime civil démocratique qui s'inscrivait en faux par rapport à d'autres évolutions dans les pays du Sahel francophone, hein, de la Guinée au Tchad et au Mali. Donc il y avait aussi ces considérations internationales qu'ils devaient mesurer l'importance.
Alors
ils sont allés contre ça, ce qui, si vous me permettez juste de terminer là-dessus, et peut-être c'est là aussi ça sera sans doute un débat d'historien pour dire que peut-être il y a toujours eu des discussions sur faire un coup d'État, mais peut-être les conditions dans lesquelles ce coup d'État très particulier du 25 octobre ont été faites c'est plutôt une réaction, un coup de tête, je dirais, un emportement, beaucoup plus que quelque chose de très bien défini, parce qu'on pourrait se dire quand même, depuis lundi, il y avait le temps de mettre en place un gouvernement civil, il y avait le temps de faire beaucoup de choses. Alors rien de tout ça n'apparaît, y compris dans les alliés civils des militaires, enfin dans ceux qu'on qualifie d'alliés civils des militaires, on a vu des réactions qui sont quand même très timides. Enfin, d'un côté, on soutient le coup, mais de l'autre côté, on demande la libération de toutes les personnes arrêtées. Donc, on voit qu'on est dans une ambiguïté totale.
D'accord. Alors, Mohamed Nadji, vous pensez que le gouvernement qui sera mis en place par les militaires, même s'ils promettent d'inclure des civils, pourra tenir pendant 2 ans, surtout avec la pression de la rue et de la communauté internationale?
Je ne crois pas qu'Al-Burhan, malheureusement, sera allé jusqu'à là parce que techniquement, il n'a pas les moyens. C'est-à-dire que si on regarde bien tout ce qu'il a fait et ce qu'il voulait, en réalité, avant toute chose, affaiblir, c'est-à-dire recomposer l'échiquier politique, affaiblir les civils et les faire admettre d'accepter d'avoir de nouvelles composantes politiques qui lui est favorable au sein de gouvernement. Et donc, du coup, même s'il y a cette rotation de pouvoir, lui et ses alliés, ils feront une majorité qui leur permettrait de diriger et d'affaiblir l'opposition, affaiblir les forces civiles et politiques. Mais en réalité, tout ce qu'on voit maintenant, c'est lui qui va en sortir affaibli de cette crise et qu'il a, c'est vrai, il a très mal calculé, je suis entièrement d'accord sur ça avec Marshall, c'est qu'il a, il n'a pas du tout bien calculé toutes les conséquences de ce qu'il allait faire. Et malheureusement, il l'a fait d'autant plus qu'il y avait des émissaires étrangers, surtout Feldman, qui est venu des États-Unis, américain, et qui est venu donc pendant 2 jours en train de lui parler et chercher à expliquer et lui faire admettre des choses. Mais lui, il a tant insisté sur l'importance de recomposer le gouvernement et l'ouvrir pour intégrer de nouvelles forces politiques avec lesquelles il s'était déjà entendu. Et ça, malheureusement, c'est lui qui est venu à Matanan.
Absolument.
Donc, alors, je ne crois pas qu'il va pouvoir former un gouvernement.
D'accord, on va suivre. En tout cas, voici quelques commentaires de nos téléspectateurs sur la page Facebook de VO Afrique. Ben Benoît Kabé est à Kinshasa. Il écrit que les militaires s'occupent de la protection du territoire national et la protection des personnes et de leurs biens, que les communautés régionales et internationales sanctionnent les putschistes pour l'acte posé et la violation des droits humains. Et puis Archiduc Théodore Ndjamena nous dit « Le Soudan va très mal parce que l'armée a volé le fruit de la révolution du peuple qui a chassé l'ancien président Béchir, que l'armée s'occupe de la sécurité et laisse l'administration aux civils. » Voilà. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. C'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. De vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Le coup d'arrêt à la transition soudanaise est suivi avec intérêt dans les autres pays africains, notamment dans les pays voisins comme le Tchad. Ce pays est d'ailleurs dirigé par un gouvernement de transition composé de militaires et de civils depuis la mort d'Idriss Déby Itno en avril de cette année. Alors que pensent les Tchadiens de la situation au Soudan voisin? Réponse de quelques-uns d'entre eux que Nestayam Goto a rencontré dans les rues de N'Djamena.
Première des choses que nous constatons au Soudan, c'était la population qui était sortie manifester pour prendre son pouvoir avec El Béchir. Maintenant, ces militaires sont venus s'accaparer de ce pouvoir et aujourd'hui on a dégagé le premier ministre. Alors c'est la même chose que nous sommes en train de voir ici. Ici c'est toujours les militaires qui dirigent. Donc partout en Afrique, nous pouvons dire qu'il n'y a rien qui ne marche. Si nous pouvons continuer avec ces militaires, il faut que les militaires comprennent que leur place ce n'est pas là. Leur place c'est dans les casernes. Ils sont là pour assurer l'intégrité du territoire et non pas pour diriger un pays.
Et ce pays-là ou ce pays-là a trouvé que le fait que l'Union africaine a déjà accepté, a déjà validé en quelque sorte le coup d'État au Tchad, ils trouvent que c'est normal, même s'ils font un coup d'État, ben, les gens ne font que, ils vont simplement crier, les gens ne feront simplement que condamner. Mais en réalité, ils n'ont aucun pouvoir, ils n'ont aucune force pour parvenir à les amener à revenir donc pour remettre le pouvoir entre les mains des civils.
Le Soudan vient clairement donner tort à tous ceux-là qui ont pensé que, oui, le Tchad pouvait copier le cas soudanais pour en faire sa politique. Nous disons que c'est faux. Nous avons besoin des civils qui puissent diriger le pays avec peut-être de vice-présidents militaires pour des questions sécuritaires. Mais nous ne voulons pas faire du Tchad un camp militaire où tout doit se baser sur les questions sécuritaires et militaires. Nous n'en voulons pas et le Soudan l'a dit clairement. Le Soudan nous donne raison aujourd'hui.
Je pense que cette transition risque de mener vraiment le Soudan vers un véritable chaos.
Voilà, donc quelques réactions à N'Djamena. Je rappelle nos invités dans le studio de Paris, Mohamed Nagy, rédacteur en chef de Soudan Tribune, toujours à Paris, mais via Skype, Roland Marshall, chercheur, spécialiste du Soudan et des conflits en Afrique, et à New York, Suleiman Baldo, conseiller principal à Saint-Tri, expert en résolution de conflits. Alors, Roland Marshall, pourquoi la région, notamment le Tchad, doit prêter attention à ce qui se passe au Soudan?
Le Tchad est dans un moment politique très particulier, puisque depuis la mort d'Idriss Déby en avril, il y a une transition. Cette transition, disons, ne fonctionne pas très bien. Évidemment, il faut, construire la possibilité de nouvelles élections. Il faut essayer de dialoguer avec des groupes armés rebelles. Il faut aussi s'entendre à l'intérieur de l'appareil militaire et sécuritaire sur le futur partage des dépouilles, hein, de pouvoir, des recettes de l'État, etc. Donc c'est, et je dirais de l'État et aussi de la famille d'Idriss Déby lui-même. Le Tchad sait qu'il peut être déstabilisé en fait par des combattants issus de deux pays voisins, la Libye et le Soudan. C'est pour ça que les relations avec le Soudan sont regardées avec beaucoup d'attention. Et c'est vrai que, compte tenu de ce qui s'est passé au début des années 2000, le régime tchadien a entretenu de bonnes relations avec les militaires, et notamment avec le général Emeti, qui est le numéro 2 de pratiquement la junte. Mais encore une fois, on est dans une situation qui reste très fluide. Et personnellement, j'ai un peu l'impression que le coup d'État qui a commencé le 25 octobre n'est pas réellement terminé, n'est pas achevé, puisqu'il n'y a pas vraiment de pouvoir alternatif qui aujourd'hui apparaît sur la scène. Et également sur les conséquences régionales, on reste quand même, il faut rester un peu prudent parce qu'on ne voit pas très bien. Des éditorialistes ont mentionné le rôle de pays du Golfe et de l'Égypte. Évidemment, dans l'absolu, c'est tout à fait crédible, mais seulement dans l'absolu. C'est-à-dire que ce sont des suspects à habituel. Il faut des preuves et ce qu'on voit aujourd'hui reste quand même, nous invite à regarder très très précisément ce qui se passe et peut-être pas à faire des affirmations trop fortes dans la mesure où les preuves sont très fragiles ou même n'existent pas à l'heure actuelle.
D'accord. Alors Souleymane, vous avez beaucoup travaillé aussi sur des conflits touchant d'autres pays de la région. Pourquoi la stabilité du Soudan est importante pour toute cette région?
Le Soudan a des frontières partagées avec 7 autres pays. Il a joué un rôle principal dans la médiation du Soudan. Il y a une intégration des populations de communautés frontalières entre le Soudan et le Tchad, entre le Soudan et la République centrafricaine. Et donc, une stabilité au Soudan pour encourager une telle direction aussi dans ces pays voisins qui sont tourmentés par des conflits internes et des guerres civiles et ainsi de suite. Et déstabilisation au Soudan va avoir des répercussions dans les pays voisins aussi. On ne veut pas avoir plusieurs pays dans la zone Afrique centrale, Corne d'Afrique, qui sont des États en faillite, parce que cela veut dire qu'il y aura des répercussions terribles pour les populations dans cette zone entière entre l'Afrique centrale et la Corne d'Afrique.
D'accord. Et Mohamed Nadji, comment tout cela est suivi par, disons, la Ligue arabe et des pays comme l'Égypte, avec lequel le Soudan est impliqué dans le dossier du barrage éthiopien sur le Nil bleu?
Oui, mais vous avez aussi oublié le Sud-Soudan, qui est très concerné par ce qui se passe actuellement. Alors, si vous permettez, je vais commencer par ça, parce que le président Salva Kiir vient d'envoyer son chef de renseignement à Khartoum. C'est Akol Kour qui vient d'arriver à Khartoum pour parler, mais il avait aussi parlé deux fois avec Al-Burhan depuis lundi. Donc, pour le Soudanais, c'est doublement intéressant. C'est-à-dire, d'un côté, à vrai dire, ils sont très partagés, parce que d'un côté, ça leur permet de calmer les ardeurs de la jeunesse sud-soudanaise qui voulait se manifester, reproduire l'exemple soudanais. Mais d'un autre côté, le président Salva Kiir, il reste le garant des accords de paix qui ont été signés au mois d'octobre l'année dernière. Et donc, parmi les gens qui sont arrêtés, il y a des chefs rebelles tels que Yasser Arman. Et donc, indépendamment du lien affectif qu'il a personnellement avec lui, avec ce chef, cet ancien chef rebelle, il s'inquiète beaucoup que ça provoque d'autres réactions de la part de son mouvement. Donc il reste très prudent et il veut avoir des garanties très vite pour que Al-Burhan respecte les accords de paix, mais aussi le processus bien sûr de septembre, de août 2019. Donc il est vraiment... Mais par rapport à la Ligue arabe, comme ça a été dit ici et là, en fait, vous avez vu quand même que le mardi soir, le secrétaire d'État aux États-Unis, il s'était entretenu par téléphone avec son homologue saoudien, et ils se sont mis d'accord pour condamner, n'est-ce pas, le coup de force à Khartoum. Et hier, même l'ambassadeur d'Arabie Saoudite était voir Al-Burhan. Et il lui a parlé de l'importance de revenir sur ses décisions et de rétablir le gouvernement de M. Hamdok et toutes les institutions de transition au Soudan. Donc, à vrai dire, il peut y avoir des souhaits, mais au niveau de la Ligue arabe et tout ce genre-là, ils sont très, très, très réticents par l'eau. Parce que si vous permettez juste un petit point, ce qu'Al-Burhan, dans tout ce qu'il propose,
Oui, malheureusement, dit qu'on est à la fin de... Nous n'avons plus de temps, malheureusement. C'est un sujet sur lequel nous allons certainement revenir. Je remercie énormément mes invités, mais également à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent, sur notre site VOA Afrique et sur notre page Facebook. Un grand merci également à toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.